aujourd'hui à Rencontre un théologien qui s'intéresse aux nouvelles religions, Richard Bergeron. Richard Bergeron a écrit une œuvre déjà assez importante. Il a écrit plusieurs articles de théologie. Il a écrit aussi une thèse, c'est son premier ouvrage, intitulé « Les abus de l'Église selon Newman ». Par la suite, il a écrit un autre ouvrage intitulé « Obéissance de Jésus, vérité de l'homme ». Et tout récemment, il a publié un ouvrage assez important, considérable, plus de 500 pages, intitulé « Le cortège des fous de Dieu », où il analyse les nouvelles religions, et il les analyse non seulement de façon, je peux dire, abstraite, mais il les analyse de façon concrète, il les situe dans la cité québécoise, dans notre milieu québécois. Mais Richard Bergeron, c'est aussi un franciscain. Et j'ai été étonné, Richard Bergeron, de voir, quand vous parlez des religions nouvelles, et en particulier des sectes, que vous allez jusqu'à dire que l'ordre franciscain, l'ordre la communauté franciscaine, était peut-être à l'origine considéré comme une secte, en tout cas s'est présenté ou a été perçu comme une secte. J'ai mal compris que vous disiez une chose pareille, parce qu'il me semblait au contraire qu'on avait toujours présenté Saint-François comme celui qui voulait reconstruire l'Église.
En effet, le mouvement franciscain, à ses origines, est apparu comme un mouvement de pauvreté. Vous savez qu'au Moyen Âge, beaucoup de mouvements de pauvreté sont apparus. Des mouvements de pauvreté un peu analogues à un certain nombre de mouvements contemporains qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles religions. Et il y a une certaine parenté entre les mouvements contemporains et les mouvements du Moyen Âge. C'est la raison pour laquelle, par exemple, beaucoup de mouvements contemporains vont s'inspirer de Saint François d'Assise, entre autres, et l'autre monde en particulier, c'est bien sûr. Alors, il y a une certaine parenté parce que, précisément, le mouvement franciscain est apparu à un moment de tournant, à un tournant de l'histoire, à un tournant de la civilisation médiévale, à une sorte de craquement du système féodal, pourrait-on dire. Et François, avec ses frères, a inscrit à l'intérieur de la chrétienté un mouvement de pauvreté, c'est-à-dire un mouvement de rupture, un mouvement de refus en face d'un certain mode de société, et aussi un mouvement de refus en face d'une certaine structure ecclésiale.
Et un refus des valeurs aussi que véhiculait cette société. C'est pas simplement un marginal qui abuserait du système, comme certains marginaux peuvent l'être parfois, n'est-ce pas, qui parasitent finalement le système. J'ai l'impression que chez François d'Assise, il y a vraiment un refus d'un certain nombre de valeurs, qui sont peut-être encore des valeurs aujourd'hui, comme par exemple, je ne sais pas, mais l'âpreté au gain, la combativité, etc. Est-ce que...
Oui, il est bien sûr. Je pense qu'il faudrait peut-être regarder la question de la façon suivante. Il est difficile de voir au point de départ François, son geste de rupture, peut-être un refus de valeurs. Il est la position de certaines valeurs. Et il dit le refus d'une certaine structuration des choses. Par exemple, il est très clair que la façon dont il s'est situé par rapport à la pauvreté, dans ce désir, dans ce refus radical de faire de l'argent le principe moteur d'une société, ben il est très clair qu'il véhicule à l'intérieur de ce geste un certain nombre de valeurs sociales bien particulières et en même temps un certain refus d'une certaine organisation sociale, en particulier le système féodal qui petit à petit est en train d'évoluer vers le système communal, et l'un et l'autre est en train de créer un certain rebut, en définitive, c'est-à-dire que l'évolution du système se faisait toujours aux dépens de ceux qui véritablement n'avaient pas de pouvoir et continuaient d'être écrasés par le nouveau système communal qui était en train de se mettre sur pied à son époque. Et donc, il y a une sorte de désir de société alternative, pourrait-on dire. Avec ses frères, il a voulu essayer d'organiser un groupe social, une communauté ou une fraternité à l'intérieur de la ville. Voyez-vous, il a refusé d'entrer chez les bénédictins. Le seul modèle de vie religieuse à l'époque était le modèle monastique. Il a refusé précisément ce modèle-là parce que ce modèle était un modèle structuré selon le modèle féodal. Il a voulu essayer d'instaurer à l'intérieur même de la société des hommes un modèle social alternatif et qu'il a essayé de mettre en œuvre avec les frères, avec ses frères d'abord, et qu'il a essayé de diffuser dans le peuple, chez les chrétiens de son temps, par la mise en œuvre d'un ordre séculier qu'on appelait le tiers ordre à l'époque et qui aujourd'hui s'appelle l'ordre franciscain séculier.
Mais il y a une chose que je voudrais vous demander, Richard Bergeron, pour essayer de comprendre d'abord qui vous êtes, parce que c'est d'abord vous qui m'intéressez. N'est-ce pas? Vous êtes franciscain et il me semble que, justement, François d'Assise, par exemple, refuse non seulement ce modèle des bénédictins, d'organisation sociale, etc., mais refuse aussi une certaine approche de l'Évangile, une certaine approche du discours religieux. Et ce refus me semble caractérisé, entre autres, par un refus de la spéculation, un refus de la théologie, un refus de la culture. Comment vous, Richard Bergeron, qui êtes franciscain, pouvez-vous concilier cette tendance qui m'apparaît, en tout cas chez Saint-François, et votre travail de théologie?
Saint-François m'apparaît comme étant celui en qui s'est réalisée la rencontre de l'Évangile et de l'histoire. Il a été celui qui a essayé de faire revivre l'Évangile. L'Évangile est une sorte de livre mort, en définitive, de lettre morte, aussi longtemps qu'il ne rencontre pas l'histoire. L'Évangile a beau contenir cette parole, bienheureux ceux qui sont les pacificateurs. Si véritablement cette parole-là ne rencontre pas ma vie concrète, mon histoire personnelle, c'est une parole qui est une parole vide, en définitive. Alors, François, dans le fond, il a essayé de ressourcer l'Évangile à partir d'une lecture de sa propre histoire et une lecture de sa vie personnelle. Et ce qui l'a intéressé a été beaucoup moins, dans le fond, la tradition théologique ou encore les traditions spirituelles passées. Ce qui l'a véritablement intéressé, ça a été ce contact direct entre sa vie et puis cette parole, ce texte, entre l'histoire de son temps et ce texte. Et c'est là que ce texte a trouvé une puissance extraordinaire de révolution, précisément parce qu'il l'a mis là où il doit être mis, ce texte, c'est-à-dire en contact avec la vie. Maintenant, il est évident que le problème de la théologie s'est posé assez rapidement. Et lorsque Saint-Antoine de Padoue, qui était théologien lorsqu'il est entré chez les franciscains...
Celui qui nous permet de retrouver les objets perdus.
Exactement. On a toutes sortes de spécialités, d'ailleurs, dans notre Olympe céleste franciscain, n'est-ce pas? Et puis, alors, Saint-François lui a envoyé un petit mot en lui disant « Il me plaît que tu continues à enseigner la théologie, mais dans ton enseignement, fais en sorte que d'observer véritablement cette préoccupation fondamentale de faire de ta théologie quoi ?» C'est-à-dire une articulation de l'expérience, une articulation de l'histoire en tant qu'elle rencontre l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la fonction théologique que j'ai assumée, que je continue d'assumer, n'est pas en contradiction avec l'esprit de François et sa spiritualité. Et parce que, précisément, j'essaie de faire de la théologie une sorte d'articulation de l'expérience. La théologie est un discours vide si elle ne se réfère pas à l'expérience d'une communauté. Et c'est très intéressant de constater comment, dans l'histoire de l'Église, lorsque la communauté chrétienne a été privée d'une possibilité d'expérience, c'est-à-dire lorsque, par exemple, l'autorité dogmatique, l'autorité doctrinale ou l'autorité administrative pose des cadres tels que la communauté chrétienne ne peut plus vivre d'expérience, comme par exemple la fin du 19e siècle, où précisément l'Église a été comme empêché de se confronter à l'histoire, eh bien, ça a été la mort de la théologie au 19e siècle. Il se passe quelque chose en théologie lorsqu'il se passe quelque chose dans l'expérience, c'est-à-dire lorsque l'Évangile rencontre l'histoire d'un peuple, d'un individu.
D'un individu, c'est-à-dire finalement de chacun d'entre nous.
Oui, bien sûr.
Qui donc a à devenir aussi, dans une certaine mesure, un certain théologien.
Bien sûr.
Bon, alors je le reprends par rapport à François d'Assise, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui vit les choses d'une façon, je pourrais dire, dramatique. En fait, voilà ce monsieur, si je m'en souviens bien, là, qui a une bonne journée, par exemple, dit, bon, ben moi, ça suffit, mon papa, ma maman, n'est-ce pas? Et puis, je m'en vais, je me mets tout nu dans la rue, n'est-ce pas? Et puis, je m'en vais voir l'évêque, et puis je lui dis, c'est une rupture. Et puis, un jeune homme qui ferait ça aujourd'hui dans la rue serait poursuivi par la police.
Alors, le geste qu'il a posé était un geste de rupture radicale, de rupture radicale d'un modèle social.
Et il envoie un autre jour Ruffin aussi, je vais peut-être dire une obsession, mais il envoie un de ses disciples, un de ses amis, Ruffin, prêcher tout nu dans les rues de la ville.
Absolument.
Enfin, mais c'est provoquant.
Absolument.
Et alors, où est votre provocation à vous? Où est, à travers vous, la provocation des chrétiens?
Où est ma provocation? Où est notre provocation en tant que frère mineur contemporain? Où est notre provocation en tant que chrétien? La question est difficile. Je pense qu'il y a peut-être quelques éléments de provocation chez certaines personnes, chez certains témoins, chez certaines communautés de témoins dans certains pays d'Amérique latine, ou certains témoins comme Mère Teresa, comme Jean Vanier. Il y a un certain témoignage assez puissant chez certains individus ou certaines communautés où véritablement l'Évangile a rencontré l'histoire. Mais dans le fond, le problème de l'Église et le problème des franciscains aujourd'hui, puisque la question me revient sous cet angle-là aussi, dans le fond, c'est un certain problème d'un manque de radicalité, d'un manque de confiance radicale à la puissance de la vérité. On ne croit pas à la puissance de la vérité. On a peur de l'erreur. On a peur de se tromper. On a peur de la pensée des autres qui ne pensent pas comme nous. On ne croit pas à la puissance de la parole qui nous habite, à la puissance de la parole qui a retenti dans l'histoire et qui est dans la bouche de Jésus. On ne croit pas à la puissance de cette parole qui a été réverbérée dans l'histoire à travers les siècles et dont François lui-même a été un grand témoin. Et c'est précisément parce qu'on ne croit pas suffisamment à la puissance révolutionnaire de cette parole que les milliers de chrétiens, les millions de chrétiens dans le monde n'ont pas le témoignage qu'ils pourraient avoir. Et en ce qui concerne le franciscanisme en particulier, il me semble que notre situation présente, qui est une situation qui est la résultante d'une histoire, d'une longue histoire de vaillance, de courage, d'une histoire où des hommes ont tenté de porter tant bien que mal dans leurs limites et leurs souffrances un certain idéal, mais où précisément un certain oubli de l'idéal, un certain oubli d'où nous venions, a fait en sorte que nous avons petit à petit fait des compromis avec le monde de l'argent, le monde du pouvoir. Nous nous sommes structurés un peu selon le modèle de la société mondaine. Et c'est ainsi que petit à petit, eh bien, la puissance de l'expérience initiale s'est émoussée considérablement.
Je voudrais vous pousser encore plus au pied du mur, n'est-ce pas? Puisque vous venez d'étudier ces religions nouvelles, n'est-ce pas? Et est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, souvent, que la vérité du franciscanisme, l'intuition originale et originelle du franciscanisme, se vivait beaucoup plus dans certains petits groupes, actuellement parfois très marginalisés, considérés comme farfelus. Hein? Et à partir de là, j'oserais presque vous demander, qu'est-ce que vous faites encore comme franciscain? Est-ce que vous ne seriez pas plus à l'aise, enfin, vraiment franciscain dans ces groupes-là, que dans cette équipe très organisée, très structurée, qui s'appelle l'Ordre franciscain?
Non. Non. Pour la raison suivante, c'est que j'ai moi-même la possibilité de m'inscrire dans un style de vie qui pourrait être semblable à celui qui peut être suggéré dans ces groupes-là. Je pense qu'il y a des tentatives nouvelles de restructuration du modèle franciscain dans des lignes beaucoup plus simples où l'effort est mis précisément dans une sorte de rencontre du charisme franciscain ou de la spiritualité franciscaine de François d'Assise avec les préoccupations du monde contemporain. Je pense que ce qui peut être extrêmement intéressant, et ce qui vient peut-être à la rencontre de certains groupes que nous appelons nouvelles religions, c'est précisément l'intuition fondamentale de François, dans le fond, à savoir son intuition de fraternité. Pour lui, le concept de fraternité est un concept fondamental de son expérience. Et il essaie de construire sa communauté précisément à partir de ce concept fondamental. C'est le refus du père, d'une part, le refus du supérieur. Que parmi vous, il n'y ait personne qui s'appelle père. Que parmi vous, il n'y ait personne qui s'appelle supérieur. Qu'il n'y ait personne qui s'appelle prieur, mais vous êtes tous des frères mineurs. C'est-à-dire, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Donc, il y a un concept fondamental qui essaie de structurer la vie interne de la fraternité qu'il veut, de la communauté qu'il veut mettre en œuvre. Et en cela, on peut dire qu'il y a certaines préoccupations dans certains groupes, religieux contemporains, qui vont dans cette ligne-là. Mais à mon sens, avec la différence suivante, c'est que pour François, d'aucune espèce de façon, sa communauté, il veut faire de sa communauté une communauté fermée. Et voilà la grande différence. Lui, sa communauté, c'est une communauté ouverte. C'est une fraternité universelle qu'il veut créer. La communauté qu'il met sur pied n'est qu'une école de fraternité. C'est là qu'il faut apprendre à vivre comme frère. Mais là où tu as à vivre comme frère, c'est dans la bagarre du monde. C'est dans la bagarre du monde avec ceux qui t'en veulent, avec ceux qui te jouent des mauvais tours, avec ceux que tu es porté d'appeler tes ennemis, avec ceux qui te rasent, avec ceux qui te font du mal, avec ceux qui ne pensent pas comme toi. C'est là que tu dois mettre en œuvre ta fraternité. Non pas dans un petit cercle fermé, bien au chaud, avec des gens qui pensent comme toi. C'est assez facile de se sentir frère de quelqu'un avec qui on partage les mêmes idées. Mais me sentir frère avec un marxiste-léniniste, c'est un peu plus difficile. Me sentir frère avec quelqu'un qui prend des positions qui sont totalement différentes des miennes, c'est beaucoup plus difficile. Me sentir frère et vivre comme frère, c'est-à-dire vivre dans le refus de la domination de celui qui vient contrecarrer mes idées. C'est toujours la tentation, n'est-ce pas, d'éliminer celui qui s'oppose à toi. C'est le refus, précisément, de prendre cette solution.
Oui. Justement, ce que vous me dites là me conduit à vous demander, n'est-ce pas, comment s'est articulée cette espèce de volonté de François d'être en rupture et de refuser même une certaine Église qui tentait d'imposer de plus en plus une autorité qui devenait envahissante de la société civile, etc. Et précisément, cette Église qui, en tout cas au dire d'un historien comme Paul Sabatier, a récupéré finalement ce mouvement contestataire de François d'Assise.
Oui. L'Église, pourrait-on dire, a récupéré ce mouvement jusqu'à un certain point. Précisément parce que c'était un mouvement assez dangereux. Chaque fois où il y a un amour un peu violent, ça devient toujours dangereux. Et là, il y avait un feu d'allumé. Il y avait une intuition fondamentale de placer dans l'histoire et de placer dans l'Église qui avait donné naissance à un nouveau modèle social, à un nouveau modèle ecclésial, donc qui mettait en question, implicitement et explicitement, dans les faits et dans l'existence, la structuration du grand modèle ecclésial. Et donc, par conséquent, une des façons pour les responsables de l'Église de domestiquer ce mouvement extrêmement sauvage, qui était le mouvement franciscain à l'époque, au début, c'était un mouvement extrêmement sauvage, c'était une sorte d'esprit débridé, c'était extraordinaire.
D'ailleurs, la bure et le cynisme, tout ça, c'était pour faire comme des sauvages, finalement.
Le froc de bure, c'était le froc des minorets, c'est-à-dire des gens pauvres, des gens simples, des petits travailleurs terriens, des petits travailleurs, des petits artisans, etc. Mais ça a été une ébullition assez extraordinaire. Et chaque fois qu'il y a une ébullition qui vient de la base, eh bien, les responsables, ceux qui sont en autorité, ont toujours une certaine peur et cherchent à museler le mouvement, à le domestiquer pour le faire entrer petit à petit dans les rangs. C'est ainsi que ce mouvement fraternel est vite devenu un mouvement communautaire et un mouvement quasi-monastique. C'est-à-dire que la structuration a évolué très rapidement vers une structuration de type conventuel, de type monastique, et toute cette idée de vie avec les gens dans les quartiers a été assez rapidement perdue au profit de grosses maisons, de grosses structures isolées du reste de la société.
Et François a souffert, dans une certaine mesure, de cette espèce d'avortement.
Lorsqu'il est revenu de Terre Sainte après son expédition avec les croisés où il est allé rencontrer le sultan pour lui parler, comme un frère et non pas comme un ennemi,
il est revenu. Était étonnant à l'époque.
Qui était très étonnant parce que l'ennemi à l'époque, c'était le sarrasin, ouais. C'est-à-dire le musulman. C'était l'ennemi numéro un de la chrétienté. Et François a refusé radicalement la catégorie de l'ennemi, même à ceux que, et les papes, et les évêques, et les théologiens, considéraient, et les rois évidemment, considéraient comme l'ennemi numéro un et de l'Église et de la société occidentale à l'époque. Il a refusé de considérer ce qu'on appelait ennemi comme ennemi. Il a refusé la catégorie d'ennemi, même pour lui. Et il est allé voir le sultan, il a traversé les lignes de combat, il est allé voir le sultan, et puis il a parlé comme un homme qui probablement avait ses problèmes comme lui, avait ses amours, ses difficultés. Il n'a pas cherché à le convertir, loin de là. Il a cherché à le rencontrer comme un frère, c'est-à-dire comme un homme qui cherche, comme tous les autres hommes et toutes les autres femmes, qui cherche la vérité dans ses difficultés, qui cherche le bien dans ses difficultés en faisant le mal souvent, en disant des erreurs.
Et c'est par là que François, par exemple, qui regarde le christianisme d'une façon nouvelle, échappe précisément, peut-être, au sectarisme dont vous avez parlé.
Ah oui, il échappe totalement au sectarisme. Nous trouvons chez lui une expérience de radicalisme extrêmement profond, mais ce n'est pas une expérience de concordisme évangélique, c'est-à-dire où il ne fait qu'appliquer des textes sur son existence, mais c'est une expérience précisément où il transforme sa propre existence en trouvant dans sa propre existence une parole de Dieu. Comment est-ce qu'il a découvert le Christ, François? Sais-tu comment est-ce qu'il l'a découvert? Il l'a découvert en embrassant un lébreux. Il l'a dit lui-même dans son testament.
Et que ça avait été dur.
Quand j'étais encore dans le monde, il me semblait trop amer, dit-il, de voir des lépreux. Le lépreux, c'était le rejeté. C'était celui pour qui la société n'avait aucune espèce de considération. C'était l'ennemi numéro un, la menace sociale numéro un. Il me semblait trop amer de voir les lépreux. Le Seigneur me conduisit en permieux. Et j'exerçais la miséricorde à leur égard. C'est ça, embrasser un lépreux. C'est cesser de le traiter comme un renégat, comme quelqu'un de dangereux, comme un rebut. J'exerçais la miséricorde, et ce qui, juste là, m'était paru amer, s'est changé pour moi en douceur, pour l'âme et pour le corps. J'attendis peu, et je changeais de vie.
Vous venez de me dire que François refuse le concordisme. Et pourtant, n'y a-t-il pas, je disais, dans son propre corps, un certain concordisme, puisque lui-même va devenir un stigmatisé. Et Je dirais là, en venant au franciscanisme moderne, que je suis parfois choqué quand je vais dans les églises franciscaines de voir ces Christs sanguignolants, etc. Et je voudrais savoir, est-ce que finalement François d'Assise n'a pas pactisé avec une certaine théologie dite du rachat, de la rédemption, du Christ sacrifié, sanguignolant, qui offre son sang pour apaiser un père?
Oui, je voudrais peut-être faire un petit détour au niveau de la vie mystique de François, c'est-à-dire son intériorité. Je pense que cette question touche l'intériorité de François, sa démarche spirituelle. Jusque-là, nous avons parlé surtout, enfin, de la façon dont s'est exprimé extérieurement ses options. Cette question m'amène à des dimensions intérieures de son être, à son expérience de Dieu, à son expérience spirituelle. C'est sûr que sa première expérience fondamentale a été de faire l'expérience de Dieu comme bon, de Dieu comme Père. Et de façon concurrente, ça a été de découvrir le Christ crucifié. Qu'est-ce que cela veut dire? La mystique de la croix, pour François d'Assise, n'a pas été une mystique de dolorisme. La croix, pour lui, ce n'est pas du dolorisme. Ce n'est pas une mystique de la souffrance que la mystique de la croix, pour lui. Pour lui, la croix, fondamentalement, c'est un acte de refus. Hein? C'est de la part de Jésus l'acte par la croix. Enfin, en définitive, Jésus va à une mort violente parce qu'il refuse de se soumettre au pouvoir politique qui veut l'arrêter de parler en public et de créer des réunions. Il refuse de se soumettre à l'interdit du pouvoir religieux qui veut précisément qu'il change sa doctrine. Il maintient sa position. Donc, il y a une sorte de refus fondamental de tout pouvoir externe. Et c'est un refus de liberté intérieure fondamentale. La mystique de la croix, pour François, a été précisément l'expérience par laquelle il s'est découvert lui-même dans son identité devant l'expérience de Jésus qui a été celui qui a poussé précisément son identité personnelle, sa parole sur Dieu, son expérience de Dieu, qui l'a poussé jusqu'au bout et qui, jusqu'au bout, a maintenu sa parole et a maintenu son attitude. Alors, François a voulu suivre Christ, le Christ. Il a voulu le suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans l'absolu de sa décision, sans reculer d'aucune espèce de façon, sur aucun point dans la décision initiale qu'il a prise. Et ce désir, cette conformité ou ce désir de suivre Jésus-Christ, dans le fond, ce n'était pas ce désir d'entrer dans une sorte de rachat mythologique. Lorsque souvent on parle de rachat ou on parle de rédemption ou qu'on parle de rançon, on a une conception totalement mythique, totalement mythologique, totalement chosifiée de cette réalité. En définitive, tous ces mots-là ne sont que des expressions qui essaient de dire quoi? Qui essaient d'exprimer cette réalité, à savoir que l'événement Jésus, c'est-à-dire l'événement de cette liberté qui s'est située dans l'histoire des hommes, de cette liberté qui s'est située en faveur des humains, parce que la parole de Jésus a été une parole en faveur de l'homme contre les structures et contre ceux qui manient la structure de la pensée ou la structure de l'argent ou la structure des pouvoirs contre l'homme pour développer leur pouvoir, pour développer leur puissance. C'est ça qui a été l'option de Jésus. Alors que cette option-là, dans le fond, cette réalité d'une liberté humaine qui est poussée à l'extrême au service de l'humanité, que ça, c'est en relation avec la vie des hommes, avec la vie de l'humanité, avec l'avancement de l'humanité, avec une certaine libération de l'homme. Alors on a cherché toutes sortes de symboles dans l'expérience pour essayer de dire ça. Alors, le rachat, on savait ce que c'était, c'était le temps des esclaves, tous les Romains avaient des esclaves. L'esclave pouvait se racheter en faisant des choses particulières, où moi, avec mon argent, je pouvais payer le propriétaire d'un esclave, il y a des 100 $ pour acheter la liberté de l'esclave. Donc, à partir d'expériences comme ça, on dit dans le fond, quand on veut chercher la relation entre l'événement Jésus et puis l'idée que ça, c'est en relation avec une certaine libération des hommes, c'est un certain impact sur l'histoire de l'homme, alors on va prendre des symboliques qui s'enracinent dans l'expérience. Le rançon, le rachat, la rédemption, ce sont des symboliques. Le problème, c'est lorsqu'on fait de cette symbolique qui essaie d'approcher la réalité de différentes façons. C'est une réalité difficile à approcher, mais qui essaie de l'approcher à partir des expériences concrètes que tout le monde vivait. Le problème, c'est de transposer en termes métaphysiques ce qui n'était que symbolique.
Image, symbole. Hein? Ah oui.
Et c'est d'isoler une de ces nombreuses images. Seulement le Nouveau Testament a au moins 15 à 18 images, rançon, réconciliation, rédemption, rachat, expiation, substitution, sacrifice, etc. Et mettez-en, qui sont des appels à des différentes expériences humaines pour essayer de pointer vers une certaine réalité, de suggérer.